Monseigneur Job Getcha, je ne puis résumer la page Wikipédia qui porte votre nom en 8 alexandrins propres et bien rimés. Je vous laisse choisir ce qu'il faut dire ou non. Professeur et docteur et évêque orthodoxe, vous venez nous parler divine liturgie. Sur la terre et les cieux, voilà le paradoxe à explorer ce soir par la théologie.
Merci d'être venus si nombreux. Merci pour l'invitation. Le Concile Vatican II, dans deux de ses décrets, le décret sur l'écuménisme, Unitatis Redite Gratia, et le décret aussi sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, et à leur suite, de nombreuses encycliques papales, comme l'encyclique Ut Unum Sint de Jean-Paul II, invitent les chrétiens catholiques à s'intéresser aux richesses spirituelles et liturgiques de l'Orient chrétien. Et donc c'est dans cet esprit qu'on m'a proposé de vous présenter ce soir la divine liturgie de la tradition byzantine. C'est la tradition liturgique de l'Église orthodoxe, mais aussi des églises catholiques de rite byzantin unis à Rome. Aussi en lien avec la publication récente de mon livre « La divine liturgie, les cieux sur la terre », je vais faire un survol un peu du livre sans rentrer dans les détails, parce que je crois que peu parmi vous, enfin quelques-uns connaissent la liturgie byzantine, il y a quelques orthodoxes ici aussi, j'ai de rencontrer quelqu'un qui fréquente l'église Saint-Julien ou a déjà visité l'église Saint-Julien le Pauvre des Melkites à Paris, qui sont donc des chrétiens de tradition byzantine unis à Rome. Donc, pour les autres, je crois que vous ne connaissez pas vous n'avez jamais assisté à une divine liturgie orthodoxe, c'est ce que je pense, ou une liturgie byzantine. Donc, je vais tâcher de présenter les choses, faire un survol. Donc, la divine liturgie, j'expliquerai les termes un petit peu plus tard, mais c'est l'équivalent de la messe dans l'Église catholique, donc c'est la célébration eucharistique traditionnelle. En usage aujourd'hui dans le rite byzantin, nous avons deux textes de la divine liturgie. La divine liturgie de Saint Basile le Grand, qui était donc évêque en Cappadoce au IVe siècle, et la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est la plus courante. Vous avez donc ces deux pères de l'Église représentés sur ces icônes qui sont en fait des portes saintes qui se trouvent devant, qui ferme et qui s'ouvre devant l'autel, devant le sanctuaire. Il y a une tradition ecclésiale qui apparaît à partir du 7e siècle, qui se développe au 10e siècle, qui dit que donc, les apôtres ont transmis la célébration de l'Eucharistie à leurs successeurs, donc le premier formulaire de la divine liturgie vient de l'apôtre Jacques, qui a été reçu au IVe siècle par Saint Basile, qui l'a, pour des raisons de commodité, abrégé, et par la suite, Saint Jean Chrysostome, pour des raisons de commodité, a à son tour abrégé le formulaire de Saint Basile. C'est une vision un peu, comment dire, un peu symbolique ou un peu légendaire. Si vous lisez le traité de Saint Basile sur le Saint-Esprit, il dit explicitement que des paroles de consécration, les prières eucharistiques, nous ne savons pas qui est l'auteur, nous avons tout cela, nous les avons reçus dans la tradition orale de l'Église. Donc, si Saint Basile lui-même ne sait pas de qui sont les paroles de la prière eucharistique, on peut bien s'imaginer que cette légende de transmission et d'abréviation de textes est un peu une imagination ultérieure, mais il est vrai que nous avons, donc, dans les traditions orientales, nous avons deux textes qui circulent, deux prières eucharistiques qui circulent, qui sont attribuées à Saint Basile, une version plus courte qui a été conservée en langue copte, une version plus longue qui a été conservée en grec, donc la version byzantine, une version syriaque et une version arménienne. Donc il y a beaucoup de textes qui circulent dans les manuscrits depuis postérieurs au IVe siècle, bien évidemment, mais jusqu'à nos jours, et qui sont attribués donc, à Saint Basile. Le texte de Saint Jean Chrysostome, lui, circule également. Il ressemble beaucoup à une prière eucharistique plus ancienne, qui est appelée l'anaphore des 12 apôtres. Donc, certains disent que l'anaphore de Saint Jean Chrysostome, c'est l'anaphore des 12 apôtres qui a été remaniée par Saint Jean Chrysostome. Les philologues se sont intéressés au texte et ont retrouvé, par exemple, certaines similitudes linguistiques, littéraires, entre les œuvres de Saint Basile et l'anaphore dite de Saint Basile, et l'anaphore de Saint Jean Chrysostome et les homélies de Saint Jean Chrysostome, ce qui quand même laisse entendre que de près ou de loin, ces deux auteurs y sont pour quelque chose, mais il faut bien comprendre que ces auteurs s'inscrivent aussi dans une tradition, une longue tradition, c'est d'ailleurs que les prières eucharistiques étaient transmises de génération en génération. La tradition, comme la légende dit que donc, Saint Jean Chrysostome a abrégé l'anaphore de Saint Basile, il est vrai que l'anaphore de Saint Basile est beaucoup plus longue que l'anaphore de la prière eucharistique de Saint Jean Chrysostome, ce qui explique que de nos jours, dans la tradition byzantine, la prière eucharistique qui est le plus souvent célébrée, communément célébrée durant toute l'année, c'est l'anaphore de Saint Jean Chrysostome, et 10 fois pendant l'année est célébrée la prière eucharistique de Saint Basile. Donc les prières sacerdotales qui sont récitées par le prêtre changent, mais dans les deux cas, c'est toujours la même structure de la célébration de l'office. L'office est constitué en 3 parties. Une partie qui est la préparation des oblats, des dons eucharistiques, qui généralement se fait d'une manière non visible, c'est la préparation a lieu avant le début formel de la célébration dans le sanctuaire, donc les fidèles n'y participent pas. Et puis il y a une deuxième et une troisième partie, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. On a ici, si on enlève la partie de la préparation, on a tout à fait la même structure de toutes les célébrations eucharistiques dans toutes les confessions chrétiennes et qui suit, par exemple, le témoignage de l'Église antique, par exemple, qu'on retrouve chez Justin le Martyr, qui explique que les fidèles se réunissent, écoutent la parole de Dieu, il y a une prédication, et ensuite, donc, on apporte les dons qui sont sanctifiés par une prière eucharistique. Comme dans l'Église catholique, les célébrants dans l'Église orthodoxe revêtent des vêtements qui sont assez symboliques et qui viennent en quelque sorte souligner que le célébrant véritable n'est pas le prêtre, l'évêque, le diacre qu'on célèbre ou qui célèbre l'office, mais que, en fait, les prêtres ou les évêques ou les diacres sont là pour signifier, rendre présent le Christ lui-même qui est le véritable célébrant. On verra, on y reviendra.
L'office de la préparation porte le nom de prothèse ou de proscomédie, qui sont des termes grecs. Donc ceux qui font du grec, je pense, comprennent le sens. Donc prothèse peut signifier à la fois ce qui est placé devant, donc l'office de la préparation qui précède, mais qui peut aussi signifier une offrande, alors que le terme proscomédie désigne l'oblation. Et donc les prières de lorsque le prêtre prépare le pain et le vin qui sera consacré ultérieurement durant la prière eucharistique commémore le sacrifice du Christ sur la croix et fait référence à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est le Christ lui-même. Donc je reviens sur, j'insiste sur le fait que la célébration de la divine liturgie, comme dans la messe catholique, il s'agit bien de faire le mémorial de l'offrande du Christ. À la différence de la tradition latine qui aujourd'hui, comme vous le savez, utilise des hosties, c'est-à-dire un pain sans levain, les églises d'Orient utilisent du pain avec levain. Donc c'est du pain levé. Dans la tradition byzantine, ce pain est appelé prosphore, du grec prosphora qui signifie offrande. Le pain, donc, il est rond avec un seau où vous pouvez distinguer la croix et des inscriptions IC pour Issus, donc, Jésus, XC pour Christos, Christ, et tout en bas, Nika, N-I-K-A, qui signifie victoire en grec. Donc c'est le Christ qui est le vainqueur, celui qui a vaincu la mort. Alors, si on regarde les textes, on a des textes polémiques au 9e siècle entre grec et latin. Donc, ces textes polémiques, la polémique n'est plus aujourd'hui n'est plus nécessaire ni intéressante, mais les arguments qu'on utilise nous permettent de comprendre pourquoi, quelle est la raison derrière d'utiliser du pain avec le vin. J'ouvre simplement une parenthèse, c'est qu'il ne faut pas oublier que la pratique, on a des témoignages même en Occident, dans les siècles anciens, que le pain avec le vin était aussi utilisé pour l'Eucharistie en Occident. Donc il ne faut pas oublier, d'ailleurs l'Occident n'a pas utilisé que des hosties pendant les 20 siècles de christianisme. La pratique des hosties a pris le dessus, mais on a aussi des traces du pain avec le vin en Occident. Mais il est vrai que l'Occident s'est focalisé sur les hosties, alors que l'Orient s'est focalisé sur le pain avec le vin. Alors, il y a plusieurs raisons qu'on donne dans la lecture polémique pourquoi on utilise du pain avec le vin. C'est d'abord le terme artos, donc, qui est en grec ancien signifie le pain, mais le pain de tous les jours. Hein, c'est le pain que l'on mange tous les jours, qui est du pain justement avec du levain. Donc on a les passages ici, tous les passages eucharistiques dans le Nouveau Testament, que ce soit dans Matthieu, Marc, Luc ou dans la première épître aux Corinthiens, utilisent le terme artos et non pas le terme azimos qui désigne les azimes juives de la Pâque juive. Donc, pour rester fidèle au texte scripturaire, l'Orient a toujours favorisé donc l'artos, c'est-à-dire le pain avec du levain. La deuxième signification, c'est une raison symbolique, c'est-à-dire que le pain avec du levain, puisque la pâte lève, c'est un symbole, se lever est le symbole de la résurrection. Anastasis, résurrection en grec, signifie se lever ou se relever. Et c'est aussi le sens que c'est un pain vivant et non pas un pain mort. Et le pain vivant fait référence au pain vivant descendu du ciel dans l'évangile de Jean. Donc, on utilise un ou plusieurs pains, ça dépend des habitudes et des usages locaux. Et le prêtre donc, commence par découper. Il va découper de ce pain, il va découper un cube. Je crois que j'ai une photo qui suit. Vous voyez, il va découper un cube qu'il va placer au centre de la patène en récitant des versets de la prophétie d'Isaïe. Comme une brebis, il a été mené à l'immolation, comme un agneau sans tache, muet devant celui qui le tord, il n'a pas ouvert la bouche. Dans l'humilité, son jugement a été exalté, qui racontera sa génération, car sa vie a été enlevée de la terre. Donc, on conclut, il est immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, ce pain qui est placé au centre de la patène et qui est destiné à être sanctifié pendant la prière eucharistique et devenir le corps du Christ, représente le Christ, le véritable agneau pascal. Tout autour, sur la patène, le prêtre va prélever des parcelles qu'il va déposer. Alors, il y a une parcelle en l'honneur de la Vierge Marie, de la Mère de Dieu, et puis 9 autres parcelles qui représentent différentes catégories de saints, donc Saint Jean-Baptiste, les prophètes, les apôtres, les saints évêques, les saints martyrs, les saints moines et moniales, les saints thaumaturges, les saints aïeux de Dieu Joachim et Anne, le saint du jour, le saint de l'Église, et puis l'auteur du texte qui est utilisé ce jour-là, c'est-à-dire soit saint Jean Chrysostome ou saint Basile le Grand. Et puis, tout au bas de la patène, il va déposer des petites parcelles en commémorant les défunts et les vivants. Généralement, donc, les fidèles apportent des listes ou des livrets, des diptyques, des intentions, demandant au prêtre de prier pour telle ou telle personne, vivante, malade, décédée. Et on a finalement sur la patène, on peut dire, une représentation de toute l'Église, rassemblée autour du Christ, l'Église des saints, l'Église des défunts et l'Église des vivants, ce qui montre que la célébration eucharistique rassemble toute l'Église, non seulement du lieu, mais l'Église répandue dans l'univers, et surtout rassemble l'Église de tous les temps. Voilà un peu donc une illustration comment se passe la prothèse. Et puis, finalement, donc, la patène et le calice, une fois que cet office de la préparation est terminé, le calice et la patène sont recouverts de voiles. Alors, si vous allez dans les églises orientales, de tradition byzantine ou d'autres traditions orientales, vous allez voir qu'il y a souvent des voiles, il y a souvent des rideaux. Et donc c'est un principe liturgique qu'on pourrait résumer ainsi: on cache pour mieux montrer. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est voilé, cela signifie faites attention, ici se cache un mystère. C'est-à-dire que ici se passe quelque chose que l'on ne voit pas d'une manière par nos yeux visible, mais qui est une réalité spirituelle. Et donc, les dons offerts et préparés dans l'office de la prothèse deviennent quelque chose de spécial. Parce que le pain et le vin, ce sont des aliments de la vie de tous les jours. On va dire que dans la société méditerranéenne, c'est les aliments fondamentaux à la vie. Je pense qu'en France, par exemple, on pourrait se passer de beaucoup de choses, mais on ne se passera jamais de pain ni de vin.
le fromage, c'est un peu difficile de s'en passer également, mais le pain et le vin, c'est vraiment les aliments essentiels, donc c'est quelque chose qui sort de la vie de tous les jours. Mais à partir du moment où ils sont ici présentés et offerts, ils sortent du domaine profane, ils sortent du domaine de la vie quotidienne pour attendre le moment où ils vont être transformés durant la prière eucharistique pour devenir le corps et le sang du Christ. Donc, puisqu'ils sont en attente de devenir corps et sang du Christ, ils sont recouverts par ces voiles qui nous disent « Attention, il y a ici quelque chose qui se passe ou qui va se passer. » Je passe un petit peu rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, vient le moment de commencer la célébration pour tout le monde, à proprement parler. Et lorsqu'il y a une concélébration entre un évêque des prêtres ou un prêtre et un diacre, le diacre dit, il cite le psaume 118, « Voici le moment d'agir pour le Seigneur. » Généralement, la majorité des gens qui entendent ces paroles comprennent qu'en fait, il est l'heure de commencer l'office. Mais si on regarde plus, avec plus de précision le contexte d'où vient ce verset psalmique, « Voici le moment d'agir pour le Seigneur », ça signifie que c'est le Seigneur qui se met à agir à partir de ce moment-là. Et donc, c'est là le fil conducteur de toute la divine liturgie, c'est que le célébrant, comme je le disais tout à l'heure, le célébrant principal, en fait, n'est ni l'évêque, n'est ni le prêtre, ni le diacre qui est l'assistant du prêtre ou de l'évêque, mais c'est le Christ lui-même qui agit. Et donc, on peut comprendre l'expression divine liturgie, le terme liturgie, donc liturgeia en grec, pour ceux qui font du grec, savent que liturgia, ça signifie une œuvre, une action commune. Divine, donc, c'est divin. Donc, divine liturgie pourrait se traduire en latin opus dei. Alors, est-ce que c'est... On peut le comprendre en deux sens. C'est-à-dire que c'est une œuvre, dans le sens de culte, qui est rendue à Dieu. Donc, un culte terrestre célébré pour la gloire de Dieu. Mais aussi, on peut le comprendre dans l'autre sens, et c'est le sens principal, c'est que c'est une action divine dans le monde. C'est que Dieu vient pour notre salut, pour notre sanctification. Donc c'est plutôt dans ce sens qu'il faut comprendre le terme divine liturgie. La première partie de la divine liturgie, c'est la liturgie de la parole, donc, qui est introduite tout d'abord par une série d'antiennes, d'antiphones, qui sont généralement des versets psalmiques qui sont chantés, intercalés de synapties, de petites litanies où l'on prie pour différentes causes. Toute cette première partie, en fait, si vous lisez le livre, je l'explique dans le détail, toute cette première partie, en fait, est un vestige de ce qu'on appelle la liturgie stationale à Constantinople. Donc, une liturgie stationale signifie une liturgie en mouvement. Les liturgies stationales viennent généralement de Jérusalem. Elles ont été ensuite transportées de Jérusalem à Rome, à Constantinople, dans d'autres villes chrétiennes. Une liturgie stationale, à l'origine, c'était qu'à Jérusalem, on s'assemblait dans un lieu, et puis on se rendait en procession, en faisant des chants et des prières, en s'arrêtant à certains endroits, mais on se rendait d'un lieu à un autre pour célébrer à un lieu précis un office ou une eucharistie. Et donc,
jadis, sur le modèle de Jérusalem, les gens s'assemblaient à Sainte-Sophie de Constantinople sur le parvis de la cathédrale, qui était la cathédrale de la ville, se rendraient en procession en chantant des hymnes et en faisant des stations de prière, se rendaient dans une église appropriée pour telle ou telle fête. Et donc, si c'était une fête en l'honneur, si on fêtait une fête en l'honneur de la Vierge, on allait dans une église consacrée à la Vierge. Si c'était la fête d'un apôtre, on allait généralement à l'église des saints apôtres, etc. Et donc, en route vers l'église, on chantait et on faisait ses prières. La deuxième ancienne se conclut par une hymne très belle qui est en fait un résumé de la foi chrétienne, une hymne qui est souvent attribuée à l'empereur Justinien, même si il est fort possible qu'elle soit antérieure à l'empereur Justinien. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui daigna pour notre salut t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et qui, changement de fille homme, et fut crucifié au Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la mort, étant l'un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Fils, avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Ce qui est intéressant, c'est que la liturgie de la parole commence par une brève confession de foi. On verra tout à l'heure qu'il y a un pendant. La liturgie eucharistique, à proprement parler, commence également par une confession de foi. Et puis, a lieu, à la fin de cette... pendant le troisième antiphone, a lieu une procession avec l'Évangile. De nos jours, donc, c'est un... Généralement, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on sort du sanctuaire pour retourner au sanctuaire, mais en fait, c'est ce vestige de l'arrivée de la procession qui se rendait vers l'église où allait être célébrée l'Eucharistie, pendant laquelle on entrait dans l'église où on allait célébrer. Et puis, une fois cette procession conclue, on chantait des trois pères, c'est-à-dire des hymnes propres au jour et au lieu. On chantait le Trisagion, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous, qui était aussi un chant à Byzance, un chant très souvent chanté pendant les processions. Et puis viennent les lectures bibliques, l'apôtre et l'évangile. Dans les premiers siècles, il y avait aussi une lecture de l'Ancien Testament, comme cela a été rétabli dans l'Église catholique au moment de la réforme du Concile Vatican II. Mais donc, dans le monde byzantin, vers le 8e siècle, les lectures de l'Ancien Testament ont été supprimées, déplacées, elles ont été enlevées de la liturgie eucharistique et elles ont été plutôt relayées à l'office des vêpres, qui est un office de préparation, parce que l'Ancien Testament donc, est la préparation du Nouveau Testament, on a préféré garder pour la liturgie de la parole que les lectures du Nouveau Testament. Les lectures sont normalement suivies d'une prédication, d'une homélie, et puis tout cela se termine par une litanie où l'on prie de nouveau pour différentes choses, et une litanie où l'on prie pour les catéchumènes. Et ainsi se conclut la première partie, qui est la liturgie de la parole. La liturgie de la parole, donc, à l'origine, avait un lieu spécifique, c'était l'ambon, qui était qui se trouvait au milieu de l'église. J'ai ici une photo. Voilà, ce sont des photos prises à côté de Sainte-Sophie de Constantinople, où l'on trouve dans le jardin des anciens ambons byzantins. Donc on voit que c'est une tribune à laquelle on accédait par deux petits escaliers. Et donc cette tribune se trouvait au milieu de l'église. Donc il y avait vraiment un centre
pour les, à la fois les, la proclamation de l'Écriture. Et dans les commentaires patristiques de Lambon et du mobilier, si vous voulez, liturgique, hein, il y a une analogie qui est faite avec le tombeau, le Saint-Sépulcre. Donc l'autel symbolise le lieu où a été enseveli le Christ, et l'ambon symbolise la pierre qui a été déroulée du tombeau sur laquelle l'ange apparaît pour annoncer aux femmes Mirophores la résurrection du Christ. Et donc l'ambon est le lieu de l'annonce, le lieu de la prédication. Des images de... Et puis on arrive à la deuxième partie qui est la liturgie eucharistique, qui est introduite par deux petites litanies pour les fidèles et qui est introduite par un chant qui s'appelle le chant des chérubins. Nous qui mystiquement représentons les chérubins et chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis du monde pour recevoir le roi de toutes choses, invisiblement porté par les anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est pendant ce chant des chérubins qu'a lieu une deuxième procession, cette fois-ci avec les dons qui ont été préparés pendant l'office de la préparation et qui sont transportés, transférés depuis l'autel de la préparation à l'autel principal où est célébré l'Eucharistie. On remarque dans ce chant qu'il y a dans la liturgie deux mouvements. Donc, d'un côté, l'assemblée terrestre est invitée à se détacher de tous les soucis matériels, de toutes les préoccupations quotidiennes, les préoccupations mondaines, pour s'associer à la liturgie incessante des anges. Donc on pourrait dire que c'est un mouvement de montée, d'élévation. Donc l'assemblée terrestre va rejoindre l'assemblée céleste, mais il y a aussi un autre mouvement descendant, c'est-à-dire que pour recevoir le roi de toutes choses, c'est-à-dire qu'à travers la divine liturgie, c'est aussi un moment où les cieux viennent sur la terre, où le Christ vient à notre rencontre pour nous sanctifier. C'est un moment où la grâce du Saint-Esprit vient pour sanctifier l'Assemblée. Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, durant le chant des chérubins, le prêtre, l'évêque, enfin c'est le célébrant principal, récite une prière qui introduit la célébration de l'Eucharistie. Et j'ai souligné ici cette expression. Donc il s'adresse, cette prière s'adresse au Christ, en disant que c'est toi qui offres et qui es offert. C'est toi qui reçois et qui es distribué. Donc, on voit, ça, vous voyez, ça rejoint à la fois les deux mouvements. Il y a un mouvement montant et un mouvement descendant. On disait tout à l'heure, la liturgie est un culte rendu à Dieu, mais c'est aussi Dieu qui est à l'œuvre et qui vient à notre rencontre. Donc, le Christ est à la fois celui qui offre l'Eucharistie, parce qu'il est le célébrant principal de l'Eucharistie, c'est lui qui a institué l'Eucharistie, mais qui est la victime, qui est le sacrifice dans l'Eucharistie? C'est le Christ qui est sacrifié, c'est le Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice sur la croix. Donc il est à la fois, on pourrait dire, prêtre et offrande, prêtre et sacrifice. C'est toi qui reçois, parce que c'est donc on offre le sacrifice à Dieu, mais c'est toi qui es distribué, parce que qu'est-ce que l'on reçoit dans ce sacrifice? On reçoit le corps du Christ.
Donc, on voit aussi à la fois dans l'iconographie byzantine et on voit aussi dans les commentaires byzantins de la divine liturgie. Par exemple, un grand commentateur de la fin du XIVe, début du XVe siècle, Simeon Thessalonique, écrit « Ce qui est sanctifié dans la hiérurgie, donc dans l'action sacrée, et le corps et le sang du Christ, c'est une vérité plutôt, et non pas une figure, car comme nous l'avons dit plus haut, il est celui qui agit à travers le prêtre. » Donc ici, on a un peu une représentation allégorique de la grande entrée, avec les anges qui portent le suaire, qui portent le calice, qui portent la patène, et qui en fait, voilà, donc on voit cette tension entre la liturgie céleste et la liturgie terrestre. Les anges ici sont un peu représentés comme des prêtres et des diacres dans la liturgie terrestre, qui à leur tour représentent les anges de la liturgie céleste. Une fois les dons transférés sur l'autel principal, il y a des demandes suivies du baiser de paix. Le baiser de paix, dans la pratique la plus généralisée aujourd'hui dans les églises byzantines, c'est qu'il est échangé seulement entre les célébrants, entre le clergé. Mais dans l'église ancienne, donc il était partagé parmi les fidèles également. Il y a certains lieux, il y a des tentatives de restauration du baiser de paix au sein de l'Assemblée. Et le baiser de paix est accompagné donc, de cette exhortation « Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement, par exemple, dans le rite latin, le baiser de paix vient plus tard. Ici, il vient au tout début de la prière eucharistique. C'est-à-dire qu'il faut se réconcilier les uns avec les autres, à la fois pour pouvoir confesser la foi, mais aussi pour pouvoir présenter l'offrande eucharistique. Ce échange de paix est suivi de la récitation du symbole de foi de Nicée-Constantinople. Je ne vais pas vous lire. On voit tout à l'heure, il y avait au début, à la fin de la deuxième antiphone, le tropaire de l'empereur Justinien qui était une brève confession de foi. De nouveau ici, il y a une confession de foi plus détaillée. Donc on voit que la confession de foi occupe une place importante dans la célébration eucharistique et qu'elle est, on pourrait dire, une base. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas célébrer l'Eucharistie. Et puis vient ensuite l'anaphore, ou la prière eucharistique à proprement parler, qui commence par une louange de Dieu, une anamnèse, c'est-à-dire un rappel de la création du monde par Dieu, suivi du Sanctus, suivi donc de l'anamnèse ou du mémorial de l'histoire du salut et de la Sainte Cène, avec les paroles d'institution. Et puis, elle est suivie d'une épiclèse, c'est-à-dire d'une prière où l'on demande à l'Esprit-Saint de descendre sur l'Assemblée et de venir consacrer, sanctifier les dons présentés. Et elle se conclut par une prière d'intercession. On a généralement toutes les prières eucharistiques, même dans les prières de l'Église catholique, suivent plus ou moins cette structure, sauf que dans certaines parfois l'épiclèse peut, dans d'autres traditions, se trouve avant les paroles d'institution. Dans la tradition byzantine, les prières, la prière d'épiclèse, la demande à l'Esprit Saint de venir sanctifier les dons, vient plutôt à la fin. Donc, voilà les textes. On n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails. Donc, anamnèse de la création. Donc, de nouveau, le Sanctus, c'est, on voit cette dynamique entre la liturgie terrestre et la liturgie céleste. Hein. Donc, le prêtre dit, nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu daignes recevoir de nos mains, bien que tu sois servi par des milliers d'archanges, des myriades d'anges, par les chérubins, les séraphins aux six ailes et aux innombrables yeux qui volent, sublimes dans les hauteurs, chantant, climant, criant l'hymne de victoire et disant « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Donc il y a toujours cette dynamique dans la divine liturgie où le mouvement montant, où on s'associe à la liturgie céleste, mais aussi ce mouvement descendant où les cieux viennent s'unir à l'assemblée terrestre. Donc, l'anamnèse avec les paroles d'institution. Et puis, ici, donc, la prière d'épiclèse, qui conclut donc, un peu la prière eucharistique. Nous t'offrons au cœur encore ce culte spirituel et non sanglant, et nous t'invoquons, nous te supplions et nous te prions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents, et fais de ce pain le corps précieux de ton Christ, et ce qui est dans le calice, le sang précieux de ton Christ, en les changeant, en les transformant par ton Esprit Saint. Donc il y a cette idée que l'Esprit Saint descend, comme à la Pentecôte, il descend sur l'assemblée de l'Église et vient transformer le pain et le vin qui ont été préparés en corps et sang du Christ. Et puis, la prière eucharistique se conclut par une prière d'intercession où l'on prie, où l'on remercie Dieu pour tous les saints, où l'on prie pour l'Église, pour l'Épiscopat, on prie pour les gouvernants, donc les malades, les voyageurs, les affligés, les captifs. Et aussi, on prie pour les défunts. Et puis, après la prière eucharistique, vient la partie finale de la divine liturgie, qui est la préparation à la communion. Donc, il y a de nouveau des demandes, qui se concluent par une prière de préparation à la communion, suivie de la récitation du Notre Père. Le Notre Père, donc la prière du Seigneur, la prière dominicale, la prière que le Christ nous a enseignée a été introduite assez tôt dans la célébration de l'Eucharistie. Par exemple, Cyrille de Jérusalem, au IVe siècle, la mentionne déjà, qu'on récitait notre Père juste avant de communier, notamment à cause de deux références dans la prière du Notre Père. Donc, il y a bien évidemment la demande pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ou une traduction plus littérale, remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Donc, il y a cette idée que pour recevoir la communion, pour pouvoir communier au Christ, il faut s'être réconcilié les uns avec les autres. Donc la notion de réconciliation est posée comme un préalable à la réception de la communion. Mais surtout et par-dessus tout, il y a cette demande dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est notre pain quotidien, ça dépend comment on traduit le texte. Si on regarde l'original dans le Nouveau Testament en langue grecque, le terme qui est utilisé pour le pain, le qualificatif qui est utilisé, c'est le terme épiousion. Alors, épiousion
peut être compris dans deux sens. Donc, epiousion, ça signifie ce qui est nécessaire à notre subsistance, à notre existence. Et donc, ça peut être compris, effectivement, comme le pain de tous les jours, le pain qui est, comme je le disais tout à l'heure, un des aliments essentiels à notre survie. Et c'est pourquoi, dans la Vulgate, Jérôme a traduit « et puis vous, si on parle quotidien », d'où la notion de pain quotidien ou le pain de chaque jour qu'on emploie le plus fréquemment dans les traductions françaises courantes. Mais épiousion peut être compris dans un autre sens, dans un sens plus littéral. Donc, épi signifie au-dessus, sur, au-dessus. Et ousion vient de ousia, l'essence, donc c'est le pain qui est au-dessus de la substance ou au-dessus de l'essence. Donc, faisant écho dans l'évangile joannique au pain qui vient du ciel, le pain descendu du ciel. Et donc, plusieurs pères de l'Église ont compris cette demande « Donne-nous aujourd'hui notre pain epiousion » comme étant la demande dans la prière du Seigneur de nous accorder, de nous rendre dignes à recevoir la communion. Et c'est pourquoi, dès la fin du IVe siècle, notamment donc à Jérusalem et en Palestine, le Notre Père commence à être utilisé comme une prière de préparation à la communion. Et puis, le pain est élevé, et le célébrant principal proclame « Les choses saintes sont pour les saints ». Alors, comment comprendre « Les choses saintes sont pour les saints » ? Donc, les choses saintes, c'est les choses sanctifiées. Donc, cela fait référence au pain et au vin qui viennent d'être sanctifiés et transformés en corps et sang du Christ. Sont pour les saints, à comprendre les saints dans le sens à l'origine, les saints étaient la désignation, par exemple, saint Paul dans les Épîtres parle des saints de telle ou telle église. Les saints, ce sont les chrétiens. Dans le sens, non pas que tous les chrétiens mènent une vie sainte et sont prêts à être canonisés demain matin, mais les chrétiens, les baptisés, sont les hommes qui ont été sanctifiés par le corps et le sang du Christ. Donc, autrement dit, ce qui vient d'être sanctifié est destiné à être reçu de ceux qui ont été sanctifiés par le baptême. Mais, par humilité, l'Assemblée répond « Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, pour la gloire du Dieu le Père. » C'est-à-dire que l'Assemblée reconnaît son indignité et reconnaît que la source de la sanctification est le Christ lui-même. Le pain est ensuite fractionné, donc élevé, fractionné, tout cela... Cela fait référence par exemple au récit de multiplication des pains dans les évangiles. On a deux récits de multiplication des pains où à chaque fois le Christ prend le pain, élève le pain, fractionne le pain, rend grâce. On retrouve aussi cela dans le récit de la Sainte Cène. Et donc en fractionnant le pain, qui est aussi désigné, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'agneau de Dieu, le célébrant dit, rompu et partagé est l'agneau de Dieu, le Fils du Père, lui qui est rompu sans être divisé, partout mangé sans jamais être consumé, mais sanctifie ceux qui le reçoivent. Il y a ce qu'on appelle, vient ensuite le rite du zéon, c'est-à-dire que c'est un rite assez particulier qui se trouve que dans la tradition byzantine, c'est que l'on va verser à ce moment-là de l'eau chaude dans le calice. Donc, c'est un rite qui peut surprendre. Alors, pourquoi la chaleur? Très souvent, le Saint-Esprit est manifesté. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste sous forme de langue de feu. Souvent, dans la littérature patristique, l'Esprit Saint est désigné comme le feu, comme celui qui brûle. Donc, le fait d'ajouter de l'eau chaude à ce moment-là vient signifier que le calice vient d'être sanctifié par le Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit. Il vient aussi signifier que l'Esprit Saint est descendu sur l'assemblée liturgique. Mais il y a aussi un autre sens, c'est que le fait de rajouter de l'eau chaude, vous savez très bien que le corps humain, lorsqu'il est vivant, il est chaud, enfin il a une certaine température chaude, contrairement à un corps mort qui est froid. Et donc le fait de rajouter dans la tradition byzantine l'eau chaude dans le calice vient souligner que à la communion, nous communions au corps et au sang du Christ ressuscité, et non pas au corps et au sang du Christ mort. Et vient ensuite donc le rite de la communion. Donc d'abord, donc ici on a une représentation de l'Eucharistie assez répandue dans les églises byzantines, où l'on voit ici, c'est un peu la Sainte Cène, mais représentée allégoriquement dans le prisme de la liturgie, parce que donc on a le Christ qui distribue son corps et son sang, donc avec une patène et un calice et un autel, et les apôtres de part et d'autre. Donc on voit donc dans la pratique liturgique communier à l'autel d'abord les concélébrants, et puis ensuite communier les fidèles. Et après la communion donc des fidèles, la divine liturgie se termine par une action de grâce, une bénédiction finale, une prière finale, et le renvoi final. Et puis, après le renvoi final, on distribue l'antidorone, qui est le pain béni, qui sont en fait les restes les pains qui ont été d'abord, d'où on a prélevé les différentes parcelles lors de l'office de la préparation au tout début, les parcelles dont l'agneau qui a été sanctifié en corps du Christ, le reste des pains est coupé et distribué à l'ensemble des personnes présentes, même à ceux, et peut-être même surtout pour ceux qui n'ont pas pu, pour diverses raisons, communier. Voilà un peu un survol de la divine liturgie. On n'a pas eu beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire mon livre. Mais nous pouvons peut-être, si vous avez des questions, soit par rapport à des choses que vous n'avez pas comprises dans ma présentation, ou s'il y a des choses qui vous ont surprise, intriguée, donc on peut prendre un petit quart d'heure pour des questions et des discussions. On n'est pas obligé de poser des questions d'Alexandre.
C'est une question de pratique.
Oui.
Dans les énonces, quelle est la proportion d'eau chaude de son Christ
La proportion, généralement, ne dépasse pas la proportion de vin.
D'accord. Non, mais c'est, oui, d'accord.
Ne dépasse pas la proportion de vin, mais... il y a... dans certains manuscrits, on trouve la remarque que que le prêtre, le célébrant principal, lorsque l'eau chaude est versée, tient le calice de la main pour veiller à ce que le calice ne devienne pas trop chaud. Il ne faut pas que donc, le calice doit être chaud, mais ne doit pas être brûlant. Oui.
J'ai une question sur la pièce du chant dans la divine liturgie. Parce que côté latin, on a dans cette série qu'elle sent du discours, elle commence à écrire sur le chant dans les confessions, et tout le caractère un peu délicat de la pièce de la. Enfin, il pensait que le chant d'Augustin n'était pas forcément en ce moment, mais. Est-ce qu'il y a des équivalents chez Chrysostome, par exemple?
Alors, évidemment, donc, c'est une chose de décrire d'une manière comme ça. Quand on décrit, on n'a pas ni la vision, ni l'audition des choses. Le chant est omniprésent, parce que, en fait, toute la divine liturgie est en fait un dialogue entre le célébrant et l'assemblée. Et pratiquement tout est chanté. C'est-à-dire que les prières sont récitées généralement d'une manière psalmodique, recto tono, mais à ces prières, il y a toujours des réponses et des hymnes qui sont chantés par le chantre, les chantres, la chorale, mais qui, en fait, devrait être chanté par l'ensemble de l'assemblée. Et donc, il y a... Par exemple, au début, je mentionnais les antiphones, ce sont des chants de psaumes, avec des réponses. Il y a beaucoup d'hymnes qui sont chantés à différents moments, qui sont des chants également. Et puis, donc, par exemple, toutes les prières... L'assemblée où les chantres répondent en chantant Kyrie eleison ou Amen ou Alléluia. Donc toute la divine liturgie elle est structurée de chants et les chants sont interprétés donc généralement par une chorale ou par des chantres, mais théoriquement ce serait l'assemblée qui devrait chanter ces chants. Donc il y a cette dynamique aussi entre l'assemblée et les célébrants. Oui.
Dans votre présentation, vous nous avez fait du nombre de parties que compose la divine liturgie orthodoxe. En fait, parce que de ce que j'ai compris, une différence assez importante avec la messe, c'est la durée de la célébration. En fait, le nombre de parties plus important fait aussi qu'elle a tendance à durer longtemps. C'est combien, enfin. Et qu'est-ce que ça représente finalement ?
Alors, évidemment, tout dépend, ça dépend de beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que tout dépend de la manière comment on chante. Il y a énormément de chants. Donc, si l'on chante d'une manière plus. Si les chants sont plus élaborés, donc par exemple pour les grandes fêtes, pour des événements plus solennels, on a tendance à mettre des chants plus élaborés. Donc, qui rallonge la célébration. Ensuite, tout dépend aussi du nombre de communiants. C'est-à-dire, si vous avez une communauté de 20 personnes, la communion va durer 5 minutes. Mais si vous avez 200 personnes dans l'église, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, la communion à donner, à distribuer. Donc, tout dépend aussi du nombre de communiants. L'homélie, ça dépend aussi beaucoup du prédicateur. Il y a des prédicateurs qui sont plus courts, d'autres sont plus longs. Mais je dirais qu'en moyenne, une divine liturgie normale dure en moyenne 1h30. Mais par exemple, dans les monastères en semaine, pour des jours, donc, pour des jours qui ne sont pas des jours de fête, les liturgies sont célébrées en semaine quand ce n'est pas un jour de fête. Les liturgies sont célébrées d'une manière très simple et sobre. Et la célébration peut durer 1 heure. Par contre, donc, dans une célébration très solennelle, avec des chants très festifs, avec énormément de concélébrants et beaucoup de personnes, ça peut durer 2 heures, voire un peu plus. Mais on voit, vous voyez, cette légende qui dit que voilà, on avait la liturgie de Saint-Jacques, c'était trop long, Saint-Basile a rabrégé, la prière était trop longue, et à cause des faiblesses des hommes, Saint-Jean Chrysostome l'a encore abrégé. Donc on voit que ce problème de la durée, c'est un problème à laquelle l'Église fait face depuis très longtemps et essaye de trouver des solutions.
Moi j'ai une question. Quelle est la place du diacre dans la divine liturgie ?
Donc le diacre, le terme grec diakonos signifie serviteur. Donc le diacre est un assistant prêtre ou un assistant de l'évêque. Dans les textes liturgiques, donc le diacre n'est pas simplement une option ou un stagiaire dans le sens que il faut faire un stage en tant que diacre avant de devenir prêtre. Mais dans les livres liturgiques, le diacre a une fonction à proprement parler. Et c'est vrai, moi je... à la fois comme liturge, c'est-à-dire quelqu'un qui célèbre la liturgie, et en tant que liturgiste, spécialiste de la liturgie, je remarque très bien que lorsqu'on n'a pas de diacre, donc on peut faire une liturgie sans diacre. Hein, un évêque ou un prêtre peut très bien célébrer la liturgie tout seul. Mais s'il n'y a pas de diacre, les choses se déroule d'une manière un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et donc le rôle du diacre, en fait, c'est à la fois, donc il assiste, il aide le prêtre ou l'évêque en portant certains, par exemple, vous avez remarqué dans les photos, dans les images, donc pendant les processions, c'est le diacre qui porte l'évangéliaire, c'est le diacre qui porte la patène. Donc, c'est le diacre qui encense. Donc, il a un rôle, il a des rôles dans la liturgie pour assister justement le célébrant principal. Mais aussi, il est un peu le trait d'union entre l'assemblée et le célébrant. C'est-à-dire que c'est le diacre qui invite toujours l'assemblée à la prière. Par exemple, prions le Seigneur, c'est toujours le diacre qui le dit. Lorsqu'il y a des intentions de prière, où on demande à l'assemblée de prier pour un tel ou pour telle chose, c'est toujours le diacre qui le dit. Donc le diacre est un peu à la fois l'assistant du célébrant principal, que ce soit l'évêque qui préside l'office ou que ce soit un des prêtres qui préside l'office, mais il est aussi celui qui invite l'assemblée liturgique à la prière. Donc on peut le voir comme un peu un trait d'union entre le célébrant, les célébrants et l'assemblée liturgique. Oui ?
Toujours sur la question du diacre, est-ce que les diacres peuvent donner des sacrements ?
Alors, dans l'Église orthodoxe, les textes sont très stricts. Le diacre n'est là que pour assister le prêtre ou l'évêque. Il ne peut pas célébrer tout seul l'office, parce que, donc, comme le nom diacre, il est celui qui est au service d'eux, et non pas celui qui a le charisme de présider ou d'accomplir le mystère.
Autre question du même ordre, vous avez parlé plusieurs fois de concélébrant et de concélébration. Est-ce que ça correspond, est-ce que le diacre fait partie des concélébrants au sens où ces concélébrants ont des fonctions liturgiques différentes de celles du célébrant principal, ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs concélébrants au sens plusieurs prêtres qui prennent part à la même fonction liturgique?
La notion de concélébration Tout dépend ce que l'on, comment on définit la concélébration, la liturgie, la divine liturgie, par définition, est toujours une concélébration, comme je le disais, entre, si un prêtre est seul, il ne célèbre pas tout seul, il célèbre avec l'assemblée liturgique. Donc, par exemple, l'usage de l'Église orthodoxe, un prêtre ne peut pas célébrer l'Eucharistie tout seul. Donc il est censé y avoir au moins une ou deux personnes présentes. C'est-à-dire que l'Eucharistie, parce que donc, c'est aussi une chose très importante, c'est que l'Eucharistie n'est pas un acte personnel. C'est toujours la célébration de l'Église. Donc, ce qui implique une assemblée de l'Église. Donc, l'assemblée peut être réduite à très peu de personnes, à une ou deux personnes, mais il faut au moins qu'il y ait un embryon d'une communauté présente. Le prêtre ne peut pas célébrer tout seul. Donc c'est toujours la concélébration du célébrant, prêtre, l'évêque, avec la communauté. Maintenant, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, les textes liturgiques prévoient, il y a des parties qui sont attribuées aux prêtres, il y a des parties attribuées aux diacres, il y a des parties attribuées à l'assemblée, qui sont souvent chantées par les chantres ou la chorale. Mais ça signifie que théoriquement, il y a aussi une concélébration au moins d'un prêtre et d'un diacre. Ce n'est pas toujours le cas, parce que bon, parfois il n'y a pas de diacre, donc le prêtre célèbre tout seul. Mais effectivement, il peut y avoir aussi une concélébration de plusieurs prêtres ensemble, où normalement, lorsque l'évêque préside, normalement, ça implique aussi la concélébration avec l'évêque du presbytérium, c'est-à-dire de plusieurs prêtres qui concélèbrent avec l'évêque. Donc, en fait, voilà. Je dirais que dans une célébration plénière, entre guillemets, on a une manifestation de tous les charismes de l'Église, l'évêque qui préside, entouré de son clergé, prêtre et diacre, et de son Église locale. À une plus petite échelle, c'est toujours la concélébration d'un prêtre avec au moins une ou deux personnes. Donc, je crois que c'est aussi une chose importante à retenir. L'Orient a gardé une conscience que la célébration eucharistique est une manifestation, une expression de l'Église. C'est quelque chose que le Concile Vatican II a aussi remis en valeur. Et c'est quelque chose qui avait été un peu oublié, ne serait-ce que peut-être pendant la période du Moyen-Âge, où on a commencé à avoir une conception des messes privées, où un prêtre pouvait dire sa propre messe, ce qui signifie qu'on déconnecte la célébration eucharistique de la célébration de l'assemblée de l'Église locale. C'est quelque chose qui a été beaucoup redécouvert grâce au renouveau biblique, patristique du XXe siècle, remis en valeur au Concile Vatican II en Occident.
Donc, si je peux juste demander une précision là-dessus, ça veut dire qu'un ermite, par exemple, soit il doit se rendre à la divinité.
Traditionnellement, donc dans la tradition de l'Orient chrétien, donc les ermites venaient participer le dimanche à la liturgie du monastère près duquel ils se trouvaient. Donc ils se rendaient pour le dimanche et les fêtes à la communauté. Et dans l'Église ancienne, alors les ermites pouvaient repartir, parce que ça c'est aussi une autre chose. Dans l'Église ancienne, on pouvait ramener avec soi la communion. C'est-à-dire qu'on allait, on participait à la, 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 la liturgie dominicale, et ensuite on ramenait avec soi la communion pour pouvoir la partager avec les malades, par exemple, qui n'avaient pas pu se rendre à l'église, ou pouvoir communier chez soi durant la semaine. Donc, c'est une pratique qui a vite disparu à cause des abus qui pouvaient se faire dans le monde, mais qui a quand même perduré chez les ermites jusqu'à assez tard. On a des témoignages dans les manuscrits, par exemple, dans les manuscrits du monde byzantin, encore au 14e, 15e siècle, les ermites repartaient chez eux avec l'Eucharistie pour communier chez eux. Et lorsque cet usage a été disparu, ça c'est, je rebondis avec l'antidorone qui est le pain béni que l'on donne à la fin de l'Eucharistie, qui n'est pas l'Eucharistie, mais qui a quand même un lien avec l'Eucharistie, parce que ce sont les restes du pain qui a été utilisé, mais qui n'a pas été consacré. Et donc, cet antidorone qui est distribué à la fin de l'Eucharistie, souvent, donc, comme je dis, on remportait chez soi les dons eucharistiques pour pouvoir communier à la maison, les fidèles rapportent cet antidorone, s'ils n'ont pas la possibilité de venir en semaine communier ou venir à l'église, ils rapportent chez eux l'antidorone, et chaque matin, la première chose qu'ils font le matin en se levant, après avoir dit leurs prières, c'est de prendre un morceau d'antidorone en se rappelant, en souvenir de l'Eucharistie dominicale à laquelle ils ont participé. C'est l'heure des complis.
J'ai quand même une
question
sur les icônes.
Oui.
Sur les icônes, moi, je n'ai pas participé à des célébrations de divine liturgie, mais une des choses qui m'avait frappé, ou peut-être que c'est qu'il y avait aussi une circulation des fidèles que l'on connaît moins dans l'Église latine, et puis occupe une place là-dedans aussi la vénération. Et alors, ça, au fond, est-ce qu'il y a une espèce de liberté qui est laissée pendant la célébration? Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus particulièrement favorable?
Alors, je répondrai à deux ou trois aspects. Donc, d'abord, je parlais tout à l'heure de la liturgie stationale dans l'église ancienne à Jérusalem, et ça ensuite a été transposé à Constantinople, comme cela a été transposé à Rome et dans d'autres villes. La liturgie n'était pas figée, c'est-à-dire qu'on commençait la célébration en un endroit et puis on se dirigeait en procession vers un autre endroit, et puis tout au long de la procession on s'arrêtait à tel ou tel endroit pour prier. Donc c'était une liturgie en mouvement. Et c'est sûr qu'à partir du moment où l'on met dans les églises des chaises ou des bancs, bon, c'est sûr que la liturgie se fige. D'ailleurs, on n'a pas la liberté de bouger tellement, parce qu'on est limité dans l'espace à cause des bancs ou des chaises. Alors, je dirais que l'Orient n'a pas connu cette évolution. Je parle de l'Orient. Donc, si vous allez dans les pays, si vous allez par exemple, que ce soit en Terre Sainte, si vous allez dans en Proche-Orient ou même dans les Balkans, en Russie, vous entrez dans les églises byzantines, les églises orthodoxes. Très souvent, ce qui vous frappe, c'est qu'il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de bancs. Ou il y a très peu de chaises ou très peu de bancs. La nef est vide, ce qui permet un certain mouvement. Et vous avez vu qu'il y a des processions, donc il y a beaucoup de mouvements en tant que tel durant l'office. C'est la première chose. À cause de cette dimension de mouvement, je ne dis pas que c'est ce qui est encouragé, ni encore moins que c'est la norme, mais il y a une certaine flexibilité dans l'Église, c'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, un fidèle arrive en retard parce qu'il habite très loin ou parce qu'il a des jeunes enfants et c'est très difficile d'amener les enfants dès le début, donc on arrive un peu en retard à l'office, ou si la personne est obligée de repartir avant parce qu'elle a d'autres obligations, c'est, cette mobilité fait que ça ne perturbe pas la célébration et que c'est possible. C'est-à-dire que effectivement, c'est quelque chose qui frappe beaucoup, je dirais, les Occidentaux qui sont habitués qu'il faut, bon, faut bien arriver un peu comme on arrive au théâtre ou au cinéma, on arrive bien avant le début de... on arrive au début, pour, on s'installe. Et que donc on attend la fin pour repartir. Bon, je sais que c'est pas toujours comme ça, mais enfin, le fait d'avoir mis des bancs et des chaises fait que si on arrive en retard, c'est d'ailleurs bon, même au théâtre, même au cinéma, il y a des gens qui arrivent en retard et c'est généralement ils se font remarquer parce qu'ils dérangent un peu l'ordre. Avec cette flexibilité qu'il y a, avec cette mobilité qu'il y a dans la tradition en Orient, fait que les retards ou les départs anticipés ne perturbent beaucoup moins la célébration. Et donc souvent, voilà, beaucoup d'Occidentaux sont frappés par, en voyant qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'Église durant la célébration. La troisième chose, c'était au sujet des icônes. Donc, le sanctuaire est séparé par l'iconostase, c'est-à-dire une mur d'icônes qui était à l'origine un chancel, c'est-à-dire tout simplement une barrière qui séparait le sanctuaire de la nef. Et puis, après la crise iconoclaste, lorsqu'on a restauré le culte des icônes à Byzance, on a voulu valoriser les icônes, et donc on les a mis en évidence sur les colonnes du chancel, ce qui progressivement s'est développé en un mur d'icônes qui sépare la nef du sanctuaire. Et donc on a sur l'iconostase un certain nombre d'icônes qui sont installées, donc on a au moins la Vierge Marie et le Christ, généralement aussi Jean-Baptiste et le saint patron de l'Église, mais dépendamment de l'espace. Si on a une petite chapelle, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc généralement on se limitera à ces quatre icônes. Si l'Église est plus grande, il y a beaucoup plus d'espace, on peut rajouter d'autres icônes de saints locaux, de saints qui sont particulièrement vénérés, aussi des icônes de fêtes liturgiques. Donc ça, c'est sur l'iconostase. Il y a aussi des icônes qui sont placées sur des lutrins pour être justement vénérés par les fidèles. Et puis parfois, souvent, il y a des fresques ou des représentations murales qui représentent les cycles des fêtes liturgiques, des récits évangéliques, aussi des saints. Donc, le fait d'avoir ces représentations des icônes dans l'Église montre aussi ce lien dont je parlais tout à l'heure, hein, de la liturgie céleste et de la liturgie terrestre. C'est ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'une assemblée eucharistique, ce n'est pas seulement l'assemblée des vivants qui se rassemblent dans un lieu pour prier et pour célébrer l'Eucharistie, mais l'assemblée eucharistique rassemble tous les fidèles, tous les croyants à travers le monde. C'est un des aspects de ce qu'on appelle l'ecclésiologie de communion, c'est-à-dire qui est aussi qui découle de l'ecclésiologie eucharistique, dans le sens que si dans un lieu on célèbre l'Eucharistie et qu'on communie au corps du Christ, ça signifie qu'une autre église dans un autre lieu qui célèbre l'Eucharistie et communie au corps du Christ, ces églises sont en communion les unes avec les autres, parce que tous communient au même Christ et tous sont des manifestations de l'unique corps du Christ. Donc il y a cette communion à travers la célébration, à travers l'espace, donc une communion, on pourrait dire, géographique. Mais il y a aussi une communion à travers le temps. La célébration eucharistique, c'est aussi un des aspects que j'ai montré, ne serait-ce que, par exemple, la patène qui représente l'agneau de Dieu, le Christ, entouré des saints, des vivants et des défunts, montre que la célébration eucharistique aussi manifeste le lien de l'Église terrestre, de l'Église céleste, mais aussi le lien entre l'Église qui se rassemble aujourd'hui et puis l'Église qui s'est rassemblée au fil des siècles. On est aussi en communion avec ceux qui nous ont précédés. Après les complis, vous pourrez poser d'autres questions.